RFI.
Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Pardon, laissez-la passer.
Non, il faut aller.
Bon, d'accord.
Cette semaine, le second volet de la lutte des femmes africaines contre les fistules obstétricales, à travers une visite du centre d'accueil de la Fondation Rama dans le village de Saptoana, l'un des 36 villages de la communauté rurale de Komsilga à 27 km de Ouagadougou au Burkina Faso. La fistule obstétricale se définit comme la constitution d'une communication anormale entre la vessie et le vagin ou entre la vessie et le rectum, survenant à la suite d'une grossesse compliquée et d'un accouchement qui se passe mal. Cette maladie qui a disparu dans les pays occidentaux depuis plus d'un siècle fait encore des victimes dans les nations en développement, dont celle de l'Afrique, pour plusieurs raisons. Selon les chiffres, plus de 2 millions de femmes souffrent encore de cette maladie dite de la honte dans les pays en développement, maladie humiliante s'il en est, on est heureux de savoir qu'elle est évitable. Ensuite, parce qu'elle entraîne des conséquences sociales dramatiques pour celles qui sont atteintes. Et c'est pour lutter contre ce fléau qu'est née la Fondation Rama. Arrivé dans le village de Saptoana, nous sommes reçus dans le bureau de Mme Rasmata Kabré, coordinatrice de la Fondation Rama.
Rama, c'est une longue histoire. Rama, c'est une vieille dame qui a eu sa fistule quand elle avait 18 ans. Et c'est à 62 ans qu'elle a su qu'elle pouvait être guérie de sa fistule. Et on l'a amenée vers nous et elle a eu les soins, elle a été guérie. Et elle s'appelle Rasmata. Il y a ma tante qui était rejetée aussi parce qu'elle a eu la fistule obstétricale qui s'appelait Rasmata. Et malheureusement, qui est décédée. Et j'avais une association, j'étais présidente d'une autre association qu'on appelait le club des femmes BPW, Business Professional Women. Et dans ce club, on a dit qu'on ne fait pas le social. Donc rapidement, je me suis dit pourquoi pas ne pas créer autre chose. Donc j'ai pris le nom de cette vieille qui avait 18 ans, qui a eu sa fistule, et le nom de ma tante. Et en 2006, j'ai créé la fondation Rama aux femmes victimes de fistules.
Si j'ai bien compris, le déclic, c'est bon, c'est un problème que vous connaissez en tant que femme vivant dans ce milieu-là. Et il y a eu l'histoire de cette vieille dame, plus des problèmes, ça touchait votre famille plus directement. Et vous vous êtes sentie concernée.
Oui, il faut dire qu'en 2002, l'histoire du club BPW, la présidente internationale, Madame Antoinette Ruc, est venue au Burkina Faso en 2002. Et nous, on devrait aller. Et nous sommes partis ensemble à Niamey. Et c'est à Niamey que je suis partie rendre visite à ces femmes victimes de fistules obstétricales. Et ça m'a beaucoup touchée. Et quand je suis revenue en 2002, rapidement, j'ai cherché à comprendre si la fistule existait bel et bien au Burkina. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça existait. Et rapidement, en 2006, nous avons organisé un congrès sous-régional dont le thème était les femmes, pour comprendre les femmes, pour éradiquer la fistule obstétricale. Et en 2006, nous avons pu identifier 5 femmes qui ont accepté de venir faire un témoignage à visage découvert. Et en 2007, on était à 47 femmes. En 2008, on était à 85 femmes. Et c'est comme ça que ça a continué.
Donc, dans un premier temps, il fallait d'abord briser le tabou.
Oui, dans un premier temps, il fallait briser le tabou. Les gens pensaient qu'une femme victime de fistule obstétricale, c'est une mélangeuse de grossesse.
C'est une femme de mauvaise vie.
Oui, c'est une femme de mauvaise vie, c'est une sorcière.
Et c'est pour ça qu'elle est victime.
Et c'est pour ça qu'elle est victime.
Donc elle était rejetée.
Elle était rejetée et moi je me suis sentie vraiment interpellée par rapport à ça. Et rapidement avec quelques amis, on a essayé de mettre en place pour commencer vraiment à lutter, à rentrer dans les 45 provinces du Burkina, faire des plaidoyers auprès des chefs coutumiers et religieux, faire des plaidoyers auprès des maris, des associations sœurs, pour leur expliquer même d'où ça vient la fistule obstétricale. Et c'est comme ça que nous avons pu convaincre vraiment le monde communautaire. Et les gens ont accepté s'adhérer. Et je peux dire que depuis 2010, et sur 100 femmes, il y a au moins 5 maris maintenant qui acceptent d'accompagner leurs femmes, venir rester du début jusqu'à la fin pour leur traitement. Donc vraiment, les gens ont compris.
Ah oui, d'accord, je vais essayer de voir ce que vous me décrivez, Madame la Présidente. C'est-à-dire que L'accouchement s'est mal passé. Premier traumatisme, elle est atteinte de fistule. Deuxième traumatisme, physiquement, elle n'est pas bien. Elle est rejetée par le village. Et tout le monde sait qu'une agricultrice, loin de son champ, économiquement, est morte. Elle est condamnée à la mendicité, quoi, en fait. C'est la survie.
Oui. Effectivement, les femmes victimes de fistules obstétricales sont rejetées, stigmatisées, exclues socialement. C'est des femmes qui errent partout, de gauche à droite. Elles ne savent même pas là où aller. Et il y a des femmes qui sont venues ici avec les insecticides dans leur sac. Elles ont dit, j'avais décidé de me suicider. Nous avons vu des femmes qui sont venues vers nous, qui ont des grands enfants. C'est quand elle est guérie totalement maintenant, qu'on voit des gens qui viennent avec des belles voitures pour dire, c'est ma tante, c'est ma cousine, c'est ma mère, c'est ma quoi. Donc vraiment, ce n'est pas facile. Nous avons vu des femmes qui sont venues avec leurs filles parce qu'elles ne savent pas là où aller. Donc, mais celles qui n'ont pas eu la connaissance de l'existence de la Fondation Rama, il y a beaucoup qui se sont données à la mort, ou bien il y a beaucoup même qui sont folles, qui errent partout.
Vous avez combien de capacités d'accueil ici? Vous pouvez accueillir combien de femmes dans ce centre?
Dans ce centre, je peux dire que nous, on n'a pas de nombre. Toute femme qui désire venir au centre ici, il y a toujours une place.
C'est-à-dire qu'on pousse les murs, quoi. Si on arrive, on pousse les murs.
On pousse les murs. Et ils arrivent que les femmes se cintrent dans chaque maison de 16 tôles, 25, 35 femmes dans une maisonnette de 16 tôles.
C'est le seul centre de ce type-là au Burkina Faso?
Je peux dire, à ma connaissance, je peux dire que c'est le centre. C'est le seul centre au Burkina Faso pour le moment.
Maintenant, on va sauter les étapes, Madame la Présidente. Une femme arrive ici, il y a les prises en charge médicales, ça c'est réglé, elle est guérie, vous lui apprenez un métier. Il faut maintenant la réinsérer au village. Comment ça se passe?
Oui, et une femme arrive ici, la prise en charge psychologique, on le fait. Les maladies opportunistes, elle est soignée. On l'accompagne vers l'hôpital et elle est guérie, elle fait sa formation. Et pour la réinsertion sociale, nous organisons une séance de sensibilisation dans son village.
C'est-à-dire tout le village?
Tout le village. Et on l'accompagne avec son matériel, c'est son kit. Elle a fait le tissage, elle part avec un métier à tisser, avec tous les accessoires, avec du fil. Et on profite maintenant à faire la sensibilisation. Et elle-même, parce que nous les utilisons comme des personnes relais.
C'est-à-dire la sensibilisation, c'est pour dire de tout faire pour que de tels cas ne surviennent plus dans le village.
Voilà, c'est pour la sensibilisation sur la prévention, et puis interpeller aussi, parce que comme c'est une maladie honteuse, il y a des femmes qui sont toujours cachées, qui souffrent toujours dans l'ombre. Donc cette femme sort, et puis elle dit, voilà, c'est moi qui étais ici, talato, je marchais, personne ne voulait s'approcher de moi, les urines coulaient, mais c'est les selles qui coulaient. Et grâce aux bonnes volontés, j'ai retrouvé la santé. Je profite de lancer un appel. S'il y a des femmes aussi qui souffrent, qui ont la même maladie que moi, venez parce qu'il y a l'espoir encore de retrouver la joie de vivre. Et la population est là, les gens posent des questions.
En d'autres termes, vous situez les responsabilités, vous dites voilà, ne mariez plus les filles à 14 ans. Et s'il y a tel problème, intervenez à temps, par exemple, ne laissez pas le travail pendant 2-3 jours à la maison. En fait, vous combattez les causes principales de ces fistules-là.
Voilà, on combat vraiment les causes de ces fistules. Les filles ne doivent plus se marier à 14 ans. Il faut bannir l'excision, les mariages des enfants. Ça, tout ça, c'est banni pour éviter vraiment la contraction de la fistule obstétricale.
On vous dit bon courage.
Merci beaucoup.
Pour se faire une idée des problèmes que ces femmes et les soignants doivent affronter au quotidien, il faut une visite de ce centre d'accueil de la Fondation Rama. C'est Palme Hervé, chargé de la communication de la Fondation Rama, qui nous sert de guide.
Une fois qu'elles ont été identifiées dans les différentes régions du Burkina, elles sont référées ici et c'est ici qu'on les héberge. On traite leurs premières maladies parce qu'elles viennent avec des infections souvent dues aux urines, à la perte des urines et autres. Donc il faut traiter ça d'abord pour faire une prise en charge psychologique avant de les référer dans les centres de santé pour leur prise en charge chirurgicale.
D'accord. Donc là, c'est vraiment l'accueil.
Voilà, là, c'est l'accueil. L'accueil et l'hébergement. mm-hmm. on s'occupe d'elles ici. Mais une fois même qu'elles ont été opérées, elles reviennent au centre pour leur convalescence. Mm-hmm. Voilà. Et elles apprennent un métier ici également, en vue de leur réinsertion socio-économique.
Il y a celles qui sont en formation, qui veulent partir, celles qui sont arrivées, celles qui sont en situation intermédiaire.
Voilà, justement. Puisque ces femmes-là, il y a beaucoup qui sont rejetées par leur mari ou par leur famille parce qu'elles sont victimes de cette maladie-là. Donc on a des pensionnaires au centre ici qui ont fait au moins 7 à 8 ans dans ce centre. Malgré le fait qu'elles soient guéries, elles ne veulent plus repartir. Mais il y a d'autres, elles sont là parce qu'elles font les interventions, elles font les interventions et ça ne marche pas. Donc elles continuent de rester, on continue de chercher des financements pour les opérer.
D'accord, donc là c'est les dortoirs.
Voilà, là c'est le dortoir, c'était un don de Kiwanis.
Et Kiwanis,
c'est une ONG belge. C'était prévu à la base pour des salles de classe, mais du fait du manque de dortoirs, on a dû transformer ça en dortoir pour les femmes.
Vous pensez que si je demande à visiter, on va violer leur intimité?
Non, je ne crois pas, je ne crois pas.
Moi, je vous suis.
D'accord.
Bon, les Kingeroya. Et Yézouem là. Ah oui, c'est aménagé comme ça.
Voilà, c'est aménagé comme ça. On attend d'avoir les moyens pour vraiment mettre ces femmes dans les conditions qu'il faut.
C'est-à-dire des lits et tout ça.
Voilà, des lits et tout ça, faire de bons dortoirs. Enfin, on continue de faire des plaidoyers auprès de certains partenaires techniques et surtout financiers pour qu'ils nous aident à nous équiper pour donner un semblant de vie normale à ces femmes-là. Voilà.
Si j'ai bien compris, le besoin est là. Et vous, vous avez la volonté de le faire, il y a le personnel pour le faire, mais ce qui coince, c'est l'argent.
Voilà, la volonté est là, puisque chaque jour, vous voyez ces femmes, elles sont là couchées sur des nattes. Ce n'est pas intéressant pour elles-mêmes, vu leurs conditions physiques. C'est que l'idéal serait d'avoir des lits, vraiment un équipement bien approprié pour leurs conditions.
D'accord, donc, on continue.
Voilà, il n'y a pas de souci.
Je vous suis.
Là.
Là, c'est un métier à tisser.
Voilà, c'est un métier à tisser. Elles utilisent ça pour leur pain que vous avez vu tout à l'heure.
Ah donc, c'est pour elles-mêmes?
C'est pour elles-mêmes, c'est pour les femmes. Elles sont là, elles apprennent avec ça. Mais une fois qu'elles ont fini d'apprendre, on leur fait don d'un métier à tisser pour celles qui ont appris le tissage, pour qu'une fois arrivées chez elles, elles puissent pratiquer ce métier-là, vendre ses pains et vivre de cette activité-là.
Et en même temps, ici, elles s'habillent?
Voilà, en même temps, ici, elles s'habillent.
D'accord,
voilà.
Continuons. Okay. On va où?
On continue par
d'accord.
Là. Bon, là,
C'est les latrines.
Voilà, c'est les latrines, c'est un don de l'ONEA.
Ah, c'est l'Office national des eaux.
Voilà, l'Office national des eaux, ils sont passés rendre visite aux femmes. On a fait un plaidoyer pour qu'ils construisent des latrines à ces dames-là.
Avant, ça n'y avait pas de latrine.
Non, avant, ça n'y avait pas de latrine.
Bon. Voilà. Et là, c'est le jardinage.
Voilà, là, c'est le jardinage. Voilà, là, c'est l'UNFPA qui nous avait octroyé une serre.
C'est là, c'est Nations Unies.
Voilà.
Ah donc, en fait, ils apprennent le maraîchage ici?
Oui, oui. Puisque parmi les métiers qu'on leur propose pour qu'elles apprennent, il y a le tissage, il y a la maraîchiculture, il y a la teinture, il y a la savonnerie. Voilà, tu peux choisir d'apprendre un de ces métiers ou tous ces métiers si tu le veux. Voilà, donc le jardinage, elles font ça, elles vendent certaines de leurs cultures et elles utilisent ça aussi pour leur consommation.
À la cuisine?
Voilà, la cuisine.
Ben,
voilà.
Tout est utilitaire ici.
Voilà, tout est utilitaire.
Mais je vois, il y a beaucoup de sortes de cultures, il y a mangue, papaye, il y a tout.
Il y a un peu de tout. Il faut dire que ces femmes aiment vraiment ça. Donc elles s'occupent comme elles peuvent. Voilà, elles font ça, elles mangent, elles vendent avec les autres femmes du village. Et ça va quoi.
On continue?
Ok, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être là c'est une cuisine. C'est l'UEMOA qui nous a octroyé ça.
L'Union monétaire ouest-africaine.
Voilà, justement. Il faut dire que l'UEMOA, c'est un des partenaires aussi de la Fondation Rama. Voilà.
Donc, c'est vous qui avez développé cette diplomatie-là?
Bon, on fait comme on peut. Il faut taper à toutes les portes pour pouvoir aider ces femmes-là. Donc, là où on sait qu'on peut avoir une quelconque aide, on n'hésite pas à aller taper.
Mais là, c'est un élevage de volailles.
Voilà, c'est un élevage de volailles. Toujours, c'est les femmes. Voilà, il y a des pigeons, des poulets, des moutons. Voilà, donc elles élèvent ça également. Une fois qu'ils sont assez grands, ils peuvent utiliser pour leur cuisine ou elles vendent pour récolter l'argent et faire autre chose avec.
Ils ont des œufs, ils ont tout ça.
Ils ont tout ça. Là?
À les salles de classe?
Non, non, c'est pas une salle de classe, c'est un grand hangar.
Où on veut en causer, quoi?
Non, pas causer, puisque avant, les femmes, c'était sous les arbres qu'elles faisaient le tissage et autres. Donc, un 8 mars, Kouris Bank International est passé au centre et rend visite aux femmes. Donc, les femmes ont fait un plaidoyer. Elles ont demandé à ce que parcourissent Bangle, construisent un hangar où elles pourraient s'asseoir pour pratiquer leur métier.
Là, elles font du tissage là.
Oui, oui, elles font du tissage là. C'est les métiers à tisser qui sont.
On peut aller voir.
Il n'y a pas de souci.
Oui, en même temps, il y a des produits en vente.
Voilà, il y a des produits en vente. C'est les réalisations des femmes comme ça. Voilà, vous voyez, c'est des pains. Pain traditionnel, le faso d'Anfani.
Oui.
Voilà, c'est en vogue en ce moment au Burkina. C'est les femmes qui font ça d'elles-mêmes.
Ça, c'est des nappes là pour la table.
Voilà, pour la table, des pains avec le logo de la fondation. Voilà, donc.
Il y a même une machine à coudre.
Oui, oui, il y a des machines à coudre. C'est le ministère de la femme qui a octroyé ça aux femmes pour qu'on les apprenne un métier également.
Oui, parce que là, elles sont à l'abri des intempéries.
Voilà, et tout et tout. Là, même s'il pleut, moi, si elles sont à l'abri, elles peuvent continuer leurs activités sans souci.
D'accord, on continue. De l'autre côté, il y a quoi?
Bon, là, c'est les salles de classe.
Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il y a tous ces, voilà, toutes ces inscriptions-là.
Voilà, toutes ces inscriptions.
Parce qu'elles viennent avec des enfants.
Oui, oui, puisque certaines femmes sont régitées à des enfants, bien elles viennent enceintes même et elles accouchent ici. Les enfants ont l'âge d'aller à l'école et leurs mamans ne sont pas encore guéries. Donc elles ne peuvent pas retourner chez elles comme ça. Et on ne peut pas. C'est pas intéressant de voir ces enfants-là en l'âge d'aller à l'école et ne pas leur essayer de leur donner une certaine éducation. Donc la coordinatrice a pensé à trois salles de classe, la maternelle, le CEP1, le CEP2 et le CE1 pour accueillir les enfants de ces femmes-là, mais aussi surtout les enfants défavorisés du village.
Ah oui, les enfants du village aussi viennent là.
Voilà, ils viennent là. Surtout les enfants défavorisés. Voilà, pour que les enfants qui sont au centre ne se sentent pas un peu exclus.
Oui, l'avantage, c'est qu'ils sont intégrés au village.
Voilà, ils sont intégrés au village et tout. Donc, voilà. C'est pour cela qu'on a pensé à ces salles de classe qui sont là. Là, c'est leur aire de jeu. Voilà, on continue de taper à toutes les portes pour ouvrir d'autres salles de classe pour que les enfants profitent.
Mais l'avantage avec ce centre, c'est qu'il y a le terrain. Quoi. Le terrain, là, c'est vaste. On peut toujours faire des infrastructures.
Oui, oui, le terrain, c'est grand. C'est un terrain d'un hectare. C'est l'ancien maire de Komsilga qui a octroyé ça à la fondation pour qu'elle puisse y construire son centre.
Tout est fait ici dedans.
Bon, on est obligé de vivre dedans, puisque c'est les bonnes volontés qui font vivre le centre, qui aident ces femmes-là.
Et qu'est-ce qu'ils font derrière, là?
Non, c'est un petit kiosque, voilà, où on vend des petits trucs, des boîtes de conserve, des allumettes. Ça aide aussi à faire entrer quelques petits fonds.
En fait, ils ont une boutique, quoi.
Voilà, ils ont une petite boutique, on va dire.
Oui, ça, c'est le centre de santé?
Oui, c'est le centre de santé, c'est l'ambassade de France qui construit ça pour la fondation. L'équipement... Par exemple, vous allez trouver là-dedans des lits, quelques lits. Ça, c'est Mme Chantal Guérin, directrice générale de la Fondation Sémafo. À chaque fois qu'elle revient du Canada, elle fait un conteneur de tout ce qui est lits et autres pour apporter ça à la Fondation.
Tout ce qui est médicalisé, quoi.
Voilà, tout ce qui est médicalisé, l'apporte ça à la Fondation. Mais le ministère de la Santé également appuie la Fondation pour l'équipement. Le personnel est à la charge de la Fondation et c'est des volontaires. Des volontaires, nous avons des sages-femmes d'État, voilà, des infirmières même, qui sont là, qui travaillent avec la Fondation.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Nous a fallu longuement parlementer, user de nombreuses ficelles pour obtenir le témoignage de quelques pensionnaires du centre d'accueil pour femmes atteintes de fistules obstétricales de la Fondation Rama. La première qui se lance se nomme Sabadogo Mamouna. Elle vient d'un village de la commune de Boursanga, situé dans la province du Bam et dans la région Centre-Nord.
La maladie a commencé avec l'accouchement. Et puis, bon, de bouche à oreille, elle a entendu parler de la Fondation Rama. Elle est venue à la Fondation Rama pour se soigner. Et que ça fait 7 ans qu'elle est venue pour se soigner, mais actuellement, elle n'est pas encore totalement guérie.
Comment s'est passé cet accouchement pour qu'elle tombe malade? On l'a accouché au forceps.
Voilà, avec une machine. Voilà, et 4 jours après, elle a constaté que les urines coulaient tout seul.
Et quand ça a commencé à couler, comment a réagi son mari?
Bon, elle a dit qu'elle a été hospitalisée pendant plus de 3 mois. Et puis, bon, finalement, les urines, ça persistait de couler. Et elle est rentrée à la maison. Ensuite, encore, ils sont partis encore.
Non, son mari l'a refoulée chez son père.
Voilà, son mari l'a refoulée chez son père. Et bon, elle est repartie à l'hôpital. Et après, elle a eu les nouvelles de la Fondation Rama. Et puis, elle est venue ici.
Donc ça fait 7 ans qu'elle est en train de soigner, mais quel est son état actuel?
Donc elle dit que actuellement ça va beaucoup, que mais bon, au niveau de la fondation on leur a dit de rester pour avoir la guérison complète, voilà, et puis suivre la formation professionnelle qu'on fait au centre, à savoir le tissage, avoir bon acquérir le matériel et puis repartir maintenant dans sa localité d'origine.
Mais comment on fait pour pardonner quand on a subi ça?
Bon, visiblement, on voit qu'elle n'a pas pardonné. Bon, elle dit que quand c'est l'homme qui est malade, la femme reste et elle s'occupe de lui jusqu'à sa guérison. Mais quand c'est la femme, là, on la répudie. Et ça, c'est pas bon. Que si elle retrouve la santé, elle va retourner chez ses parents. Puis rester, que les hommes là, c'est bon maintenant.
Mais elle est encore jeune, elle ne va pas boucler sa vie comme ça.
Elle dit qu'elle ne veut plus entendre parler des hommes, qu'elle en est fatiguée. Voilà. Maintenant, si elle a la santé, elle rentre chez elle.
Mais elle me mélange avec tout ce qui est homme, quoi.
Voilà, en fait, dans... voilà, tout ce qui est homme est responsable de sa maladie. Parce qu'elle, elle pense que bon, c'est l'homme, quelque part, l'homme aussi est responsable. Mm-hmm. Parce que c'est venu de l'accouchement. Et l'accouchement aussi, il y a la part de l'homme dedans. Donc, forcément, l'homme est responsable.
Moi, je sais qu'elle a raison, mais si elle garde cette colère, elle va s'empoisonner elle-même.
Bon, il sait pas où commencer parce qu'elle a dit tellement de choses.
Ben, l'essentiel.
D'accord. Donc, elle dit qu'en tout cas, elle voit qu'il y a des gens importants qui viennent les rendre visite et tout. Et par contre, leur mari, leur conjoint, les répudient que ça, c'est pas bon.
C'est ceux qui sont responsables de leur mal.
Voilà, ceux qui sont responsables de leur mal s'en fichent. Pourtant, il y a des autorités, il y a des grandes personnalités qui viennent les rendre visite.
Mais je lui dis merci.
Elle vous remercie beaucoup. Que, bon, actuellement, elles sont sous la responsabilité de la Fondation Rama et de Madame Cabré, qui est la coordonnatrice. Donc, leurs besoins alimentaires et de santé et tout ça, c'est elle qui supporte. Donc, elle prie, elle demande à Dieu et à vous de les venir en aide.
Mais elle a dit aussi que s'il n'y avait pas cette fondation, il y a des femmes qui se sont suicidées.
Effectivement, elle a dit ça. Parce que dans nos échanges, dans nos entretiens, effectivement, beaucoup, ça ressort beaucoup.
Qui veulent se suicider.
Qui avaient des envies suicidaires, mais bon, maintenant qu'elles sont au centre ici, c'est comme un passé et puis elles nous racontent.
D'accord, merci. La deuxième qui accepte de parler à notre micro est une frêle jeune femme qui se nomme Sarata Savadogo. Mariée à 17 ans, elle a aujourd'hui 23 ans. Le regard constamment fiché au sol, elle semble avoir vécu mille vies, mille calvaires.
Je dis que tu as changé. La tonne ville a rentré une pile à l'opéra.
Dès qu'elle n'était pas effectivement pas femme actuellement, et effectivement, que mais dans leur village, là, si tu es arrivé à 17 ans seulement, on te donne un mariage.
Elle n'a pas expliqué à sa mère qu'elle voulait attendre un peu.
Elle dit que chez elle, c'est la norme comme ça, on ne peut pas refuser.
Donc quand elle s'est mariée, son mari s'est comporté comment?
En fait, elle la même qui est en Côte d'Ivoire. On te dit qu'il n'y a pas de temps, il n'y a
Après leur mariage, son mari l'a amenée en Côte d'Ivoire. C'était dans les plantations. Et elle est tombée enceinte. Et après, bon, pour l'accouchement, elle a accouché à la maison, bon, avec des difficultés. Et, bon, et après ça, qu'elle a eu la maladie.
Et quand elle a eu la maladie, comment son mari a fait?
Elle a eu la maladie.
Donc son mari l'a rapatrié au Burkina Faso et quand elle a entendu parler de la Fondation Rama, voilà, son mari l'a conduit au centre ici.
Ah, c'est son mari qui l'a accompagné ici.
Là, en talman wanaka wa kayesuk mampai alebon lor mamingni fuye kanyaye.
que c'est son mari qui l'a conduit ici. Bon, après, il est reparti. Jusqu'à présent, elle n'a plus eu de nouvelles de lui.
Ça fait combien d'années qu'elle n'a pas de nouvelles?
Maman, quand il y a eu ma yopoué,
elle dit que ça fait 7 ans qu'elle est ici et depuis, elle n'a plus de nouvelles de lui. Elle a pu faire 4 interventions. Actuellement, les écoulements d'urine, ça a beaucoup diminué, mais ce n'est pas encore fini totalement.
Mais la nouvelle quand même de sa propre famille.
Oui, sa propre famille vient lui rendre visite.
Sa mère vient le voir?
Son papa est venu, mais sa maman non.
Et pourquoi sa maman ne vient pas?
Elle veut venir, mais elle n'a pas encore eu les moyens.
Mais si moi je suis une femme, je sais que ma fille est malade, ça fait 7 ans que je ne l'ai pas vue, ça va me faire mal quand même.
Donc c'est dire qu'elle rend visite chaque 3 ou 4 mois, elle repart en famille. Donc elle a permanemment des contacts, des liens avec sa maman.
Donc quand elle arrive au village, elle raconte sa maladie, elle dit c'est une maladie comme les autres.
Oui,
elle dit que si elle rentre, effectivement, elle dit aux gens que, bon, ici, dans le centre, ici, il y a des gens qui sont très âgés, il y a des jeunes filles aussi, il y a même des enfants qui sont là, dans le centre.
Est-ce que les gens du village comprennent?
Oui, maman. La radio, madame Cabron, Gombe.
Oui, que les gens comprennent, surtout que la coordinatrice Madame Cabré intervient chaque fois à la radio pour expliquer ce que c'est que la fistule. Donc ça fait que les gens commencent à comprendre.
Elle, au moins, elle a pardonné.
Elle
dit qu'elle pardonne en tout cas à sa famille qui entretient toujours des relations avec elle. Mais son mari, précisément, non, elle ne pardonne pas.
Et la famille du mari?
Que lui, avec sa famille, elle ne pardonne pas parce qu'il ne cherche pas à avoir des nouvelles d'elle.
Elle en veut à son mari ou elle en veut à tous les hommes?
Ouais, elle a généralisé, elle dit que c'est tous les hommes.
Donc moi, je vais avoir peur d'elle si elle est contre tous les hommes.
Elle dit que c'est le mari et vit avec sa famille, mais pas... tous les hommes en général, parce que ici dans le personnel, il y a des hommes qui les soignent aussi. Donc elle ne peut pas généraliser comme ça.
Ah, donc ça va là, parce que là je suis tranquille maintenant.
Elle
dit que les chirurgiens qui l'ont opéré les 4 fois, que tous les 4 fois c'était des hommes.
Ça veut dire que tous les hommes ne sont pas mauvais.
Elle dit que c'est la famille de son mari qui ont des hommes dans leur famille, que c'est eux qui sont mauvais, qu'elle parle de ces gens-là.
Vous lui dites merci?
Voilà, tout pour rien. Bah.
Il est là. Bon, Maramba, dans ton
cause. Nous étions au centre d'accueil des femmes victimes de fistules obstétricales de la Fondation Rama dans le village de Sabtoana, l'un des 36 villages de la commune rurale de Komisinga, à 27 km de Ouagadougou au Burkina Faso. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Bouchenski, au micro Sayouba Traoré. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante.
Non, on n'évacue personne.